Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Ils s'appelaient Rodney King, Eric Garner, Michael Brown, Walter Scott, Freddie Gray ou encore George Floyd. Tous décédés à cause des violences policières aux États-Unis. Quelques noms parmi des dizaines, des centaines d'autres qui, depuis des années, en raison de leur couleur de peau, tombent sous les coups mortels des forces de l'ordre. Bonjour Louis-Philippe d'Alembert.
Bonjour.
L'écrivain que vous êtes s'est inspiré de ces affaires tragiques pour un roman qui vient de paraître sous le titre « Milwaukee Blues » chez Sabine Vespieser éditeur, une fiction qui s'ouvre dans cette ville américaine du Wisconsin sur l'assassinat d'un homme prénommé Emmett, père de famille, désarmé, étouffé sous le poids de plusieurs officiers de police blancs devant une supérette et dont les derniers mots sont « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, je ne peux pas », ce qu'avait dit aussi George Floyd avant de mourir asphyxié le 25 mai 2020. Quel a été le déclic de votre livre, Louis-Philippe d'Alembert ?
Vous dites bien déclic, justement, parce que ça a été le déclic. Mais en fait, le roman existait bien avant ce triste événement. Je veux dire, existait dans ma tête. En fait, il s'agit d'une traversée des États-Unis, à travers ces forces, on peut dire, mais aussi ces talons d'Achille. Ce qui rend ce pays à la fois fascinant, si vous voulez, et en même temps très dérangeant. Donc, pour moi, ça a été vraiment l'actualité, on peut dire, ça a été le déclencheur. Mais j'y pensais déjà, ne serait-ce que depuis Eric Garner, en 2014, en juillet 2014, donc qui était mort dans les mêmes conditions. Mais il s'agissait avant tout de dire un pays qui participe du roman familial pratiquement en ce qui me concerne et depuis très très longtemps. Comment dire ce pays à travers son histoire, à travers une forme de déterminisme social. Et là, il y a eu ce déclic-là. J'ai bien aimé que vous ayez parlé de fiction parce qu'il s'agit d'une fiction qui s'inscrit tout à fait dans les, j'ai envie de dire, dans mes questionnements d'écrivain, aussi bien d'un point de vue idéologique qu'esthétique. Il y a une forme d'humanisme qu'on rencontre toujours dans mon travail, qu'on voit dans Milwaukee Blues, par exemple. Et puis, il y a un certain nombre de thématiques de femmes seules qui élèvent un enfant, comme la mère d'Emmett. Donc, c'est un certain nombre de thématiques qui sont là, le rôle de la femme dans ces sociétés-là. Et ces thématiques sont là et cet événement triste a été l'élément déclencheur. Donc il fallait trouver un moment ou une porte d'entrée, si vous voulez, ou un prétexte, entre guillemets, pour parler de ce pays-là, pour parler de cette ville-là où j'ai enseigné à l'université Wisconsin-Milwaukee, par exemple. Et là, ça a donné ce roman avec un personnage qui s'appelle Emmett.
Alors en effet, Louis-Philippe d'Alembert, les États-Unis, c'est un pays que vous connaissez bien, même si je le rappelle à nos auditeurs que vous êtes haïtien. Mais en effet, vous avez enseigné à cette université de Wisconsin-Milwaukee. Donc vous connaissez bien cette région qui est le cadre de votre roman. Est-ce que vous aussi, en vivant là-bas, sur place, vous avez senti ces tensions raciales telles que vous les décrivez et qui vont aboutir au meurtre de votre personnage, Emmett?
Non, je n'ai pas senti dans les mêmes conditions que d'autres personnes, ou disons, pas plus ni moins qu'en Europe, en fait. Et si vous voulez, ça existe. Je n'ai pas vécu dans ce quartier-là que j'ai décrit, mais quand j'y allais, justement, je savais ce qu'il y avait derrière, en fait. Je voyais un certain nombre de gens, j'avais un certain nombre, comment dire, d'interlocuteurs. Mais en même temps, cet élément-là, c'est un élément qui vient cacher quelque chose de, j'ai envie de dire, de plus brutal dans la société des États-Unis, qui est une société ultra-capitaliste, si vous voulez, et ultra-libérale, où il n'y a pas tellement de place pour les faibles, en fait. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que quand on vient d'un ghetto noir et pauvre comme Emmett dans le roman, quelles sont les chances qu'on a d'échapper justement à ce déterminisme social-là ? Comment arriver à s'en sortir, à tirer son épingle du jeu? Donc lui, il a de la chance au début, parce qu'il est très bon en football américain. Il va finir par obtenir une bourse à la sortie du lycée pour pouvoir aller dans une université et espérer devenir professionnel. Donc, quand le roman commence, on sait déjà qu'il est mort. Donc, on le sait. Et là, c'est là que je fais intervenir tous ceux et toutes celles qui l'ont connu. Mais on se rend compte qu'on est poursuivi par tout ça. On n'arrive pas toujours à s'en sortir, c'est même quand on aurait les moyens de le faire, quoi.
Justement, je m'arrête un instant sur ce que vous venez de dire, Louis-Philippe d'Alembert, ce déterminisme contre lequel on n'arrive pas à lutter, mais aussi ce racisme, parce que vous faites dire à un de vos personnages, on n'est pas dupe de ce qui se passe entre la police et les Noirs. Et un peu plus loin, la police ne se serait pas déplacée si le type avait été caucasien. Donc on sent bien à quel point c'est ancré encore aujourd'hui, en 2021, que ce racisme existe sur tout le territoire.
J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que justement ça existe, comme, encore une fois, comme ça existe au Canada, comme ça existe en Europe, comme ça existe dans d'autres pays blancs. Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais c'est aussi ce qui est important, c'est la police aux États-Unis, c'est une police très brutale. Mais comme il y a cette tension raciale, en fait, qui participe même de l'identité de ce pays, donc c'est très bien d'ailleurs, on a tendance à pointer du doigt quand ça arrive, et ça arrive trop souvent pour les Noirs. Mais il faut dire aussi que ça arrive aussi pour des petits Blancs. Et on en parle peut-être moins parce qu'il n'y a pas cette tension, justement, qui va expliquer un certain nombre de choses. Donc, c'est quelque chose qui est là, c'est cette relation, ce rapport, je dirais tout à l'heure, donc je parlais de ce capitalisme, le rapport aux armes, par exemple, qui existe, c'est presque, j'ai envie de dire, des fondamentaux de ce pays-là, c'est-à-dire, il faut être armé, tout le monde doit être armé, et on se rend compte qu'aucun chef d'État n'ose vraiment attaquer ce problème. Quelqu'un comme Barack Obama a essayé à un moment donné, mais vu d'ici, vu d'Europe, ce qu'il avait proposé, c'était de la bouillie pour bébé, pratiquement, mais malgré tout, ça n'a pas passé. Donc, c'est très, très difficile, et il ne faudrait pas, mais c'est là que le personnage, par exemple, de Mark Robinson, dans le roman, va essayer, comment dire, d'aller au-delà. C'est-à-dire que de ne pas se laisser enfermer, justement, dans les tensions raciales, et d'être dans une forme d'humanisme qui va au-delà. Parce que, justement, quelque part, plus on s'enferme, que ce soit dans les tensions raciales, que ce soit dans les genres. On se rend compte, les relations entre genres aux États-Unis, ça devient de plus en plus difficile. Et en plus, c'est un pays qui est morcelé au maximum, j'ai envie de dire. Morcelé, bien entendu, au niveau ethnique, morcelé au niveau des genres. Chacun essaie de devenir, quelque part, une communauté à soi, j'ai envie de dire, tout seul. Mais quelque part, ça fait l'affaire du système, en fait. C'est-à-dire que plus les gens sont divisés, eh bien mieux cet ultra-capitalisme libéral pourra continuer à dicter ses lois, en fait.
Encore un mot pour dire que Kemet a été nommé aussi, prénommé par sa mère en hommage à Emmett Till, qui est ce jeune garçon de 14 ans, torturé et lynché en 1955 dans le Mississippi. Pourquoi lui en particulier, Louis-Philippe d'Alembert ?
Parce que c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit et à l'époque, mais qui avait fait beaucoup de bruit et en même temps qui est allé au-delà. Là aussi, je reviens à ce que j'ai dit, qui est allé au-delà de la communauté, justement. À l'époque, il y avait un chanteur comme Bob Dylan qui avait écrit une très belle chanson en hommage à Emmett Till. Il y avait le poète cubain Nicolas Guillen, le poète martiniquais Aimé Césaire, le poète haïtien René Depestre. Donc, c'est quelque chose qui était allé au-delà même des États-Unis, au-delà de ce que ça pouvait représenter et tomber, justement, dans l'humain. Donc, pour moi, l'idée de prendre Emmett comme prénom et comme référence, c'était justement de dire que avant d'être un noir, c'est un être humain. Et mais un être humain qui vit dans des conditions très très difficiles économiquement, qui expliquent justement cette fin brutale qu'il va avoir.
Donc ici, après la scène inaugurale du meurtre qui est racontée par le jeune garçon de la supérette qui a appelé la police parce qu'il avait un doute sur le billet que lui avait donné Emmett, vous faites, Louis-Philippe d'Alembert, le portrait de la victime, enfin de l'absent désormais, à travers la voix de plusieurs personnages qui l'ont bien connu, comme vous le disiez tout à l'heure, son ancienne institutrice, ses amis, son coach, son premier amour, et aussi celles et ceux qui veulent que cette mort ne reste pas anonyme et banale et vont organiser une marche. Nous y reviendrons parce que c'est la deuxième grande partie de ce roman. Que vous permet ce récit pluriel où s'expriment des hommes, des femmes de divers âges et conditions sociales, Louis-Philippe d'Alembert ?
Ça me permet d'une part de ne pas tomber dans le manichéisme parce que je multiplie les points de vue. Donc, c'est un roman choral ou polyphonique, si vous voulez. Donc, chaque personne vient raconter son émette, mais en racontant son émette, c'est-à-dire on multiplie forcément les points de vue, mais en même temps, on parle de soi. Et c'est pour cela que, comme on dit tout à l'heure, j'ai parlé de traverser les États-Unis. Donc, c'est autant de tableaux. Quand je parle de l'autre, je parle aussi de moi. Quand l'ancienne institutrice d'Emmett parle d'Emmett, mais elle parle aussi de son monde blanc des beaux quartiers d'où elle est venue. Elle parle aussi de ses combats depuis les années 60. Elle parle des marches pour les droits civiques et aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une espèce de fresque qui se met en place par puzzle, par petits bouts comme ça, et au fur et à mesure, chacun raconte. On raconte Emmett, et d'une certaine façon, c'est assez linéaire. On peut suivre assez facilement l'enfance d'Emmett, son adolescence, et puis après le moment où il part, mais en même temps, ces gens-là rôtissent ces États-Unis qui sont les leurs, en fait. Ils parlent d'eux, donc ne pas tomber dans ce manichéisme-là, ne pas tomber dans le « ils sont tous les bons d'un côté, les méchants de l'autre ». À un moment donné, il y a même un chapitre qui est une espèce de monologue intérieur où le policier qui l'a assassiné prend la parole. Et ce policier aussi, on se rend compte que d'une certaine façon, il est lui-même, j'ai envie de dire à sa façon, victime de ce capitalisme ultra-libéral où c'est quelqu'un qui vient des petites classes moyennes, qui en plus a épousé une femme d'origine asiatique et qui a des traites à payer, un emprunt bancaire et ainsi de suite. Donc, qui essaye de s'en sortir comme beaucoup d'autres et puis il s'est tombé sur lui à cause justement de ces relations qui existent dans ce pays de manière, j'ai envie de dire, depuis la fondation des États-Unis, depuis 1776.
Un profil qui ressemble beaucoup d'ailleurs au policier qui est responsable de la mort de George Floyd.
Oui, tout à fait, qui a payé pour ceux d'avant et pour ceux d'après et en même temps, quoi.
Milwaukee Blues, le titre de votre roman, Louis-Philippe d'Alembert, est aussi une chanson. Je vous propose qu'on l'écoute. Est-ce que vous avez une préférence pour une version en particulier, puisque c'est un titre qui a été énormément repris?
Oui, j'ai une préférence pour une... L'original, j'aime bien, mais l'original fait un petit peu...
C'est Charlie Poole.
Oui, Charlie Poole. Je préfère une version qui a été jouée par des jeunes, des métis, des noirs, et je crois qu'il y a un blanc là-dedans aussi. Donc, il y a un groupe vraiment multi-ethnique, comme on dit aujourd'hui, qui interprète cette version que j'aime beaucoup.
Alors, on l'écoute. One Tuesday morning, look like rain around the curve, there wasn't bad in the train. Fireman say, won't you open the door? He's a good old hobo and he's trying to get home, trying to get home, trying to get home. He's trying to get home, just trying to get home. He's a good old hobo and he's trying to get home. I left Atlanta one Tuesday, 4 days. The brakeman said, you'll have to pay. Got no money but upon my shoes. I'm going out west, I got the Milwaukee blues. Milwaukee blues, Milwaukee blues. Yeah, Milwaukee blues, got the Milwaukee blues. Now I'm going out west, I got the Milwaukee blues. Come on now. Way down in Georgia on a tram, the road's getting muddy and the leaves getting damp. Gotta get the freight train to leave this town, cause they don't allow no hobos are hanging around, hanging around. In the hands of God, hands of God,
hands of God,
hands of God,
in the hands of God.
They put all their trust in the hands of God. Now old Bill said just before he died, two old roads he'd like to ride. Old Bill, what can they be? It's the Southern Pacific and the Santa Fe,
Santa Fe,
Santa Fe,
Santa Fe. again Santa Fe. Oh no.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Louis-Philippe d'Alembert dont le nouveau roman vient de paraître sous le titre Milwaukee Blues, comme la chanson qu'on vient d'entendre, chez Sabine Vespieser, éditeur. On l'a dit, il s'agit d'une fiction qui, à partir de la mort brutale d'un homme suite à des violences policières comme les États-Unis en connaissent trop souvent, pose aussi cette question fondamentale, ça ne s'arrêtera donc jamais ? Sous-entendu, pourquoi, 60 ans après la lutte pour les droits civiques, existe-t-il encore des crimes racistes et comment mettre un frein à cette injustice ? Avec ici, peut-être, dans votre roman, Louis-Philippe d'Alembert, des pistes, à commencer par la nouvelle génération qui use d'une arme assez efficace, les réseaux sociaux. Vous pensez en effet que ça peut faire changer les mentalités, les lois, la société, ces vidéos virales, témoins d'abus, de violences et qui alertent le pays, le monde entier ?
Je ne sais pas si ça peut changer les mentalités, mais au moins ça peut arrêter un certain nombre de dérives, je pense. J'en suis convaincu. Face à ces dérives-là, quand on sait qu'on est filmé, quand on sait que ça risque, comment dire, de passer sur tous les réseaux sociaux ou à la télévision, etc. Donc, on se contrôle un peu plus. On a vu ce qui s'est passé en France, par exemple, avec ce jeune homme qui s'est fait tabasser dans son studio par des policiers. Et heureusement que ça a été filmé. Et puis, ça a été, il a pu obtenir d'une certaine façon justice, j'ai envie de dire. Donc, ça peut limiter certaines dérives. Mais maintenant, le changement des mentalités, c'est beaucoup plus long. Est beaucoup plus lent. Et c'est pour cela que cette dame, l'ancienne institutrice d'Emmet, a dit que ça ne s'arrêtera donc jamais, parce que les mentalités ne se changent pas aussi facilement au long d'une vie. On le voudrait, on aimerait justement que ça change tout de suite, mais on se rend compte que technologiquement, on peut aller très vite. Ma génération a connu les premières machines électroniques, à écrire électronique. Après, il y a eu les ordinateurs avec les floppy disks, et après, il y a eu les disquettes, et ainsi de suite. Maintenant, ça se passe dans les nuages, et ainsi de suite, mais ça va très vite à ce niveau-là, d'un point de vue technologique. Mais au niveau des mentalités, c'est beaucoup plus lent. Ça prend beaucoup de temps, et on aimerait, cet institut, va se dire, est-ce que ça ne s'arrêtera pas? C'est parce que quelque part, elle est un peu déçue, elle aurait aimé que ça aille plus vite, parce que elle s'est rendue compte qu'elle s'est battue dans les années 60, et on ne s'en rend pas compte, justement, d'où l'humanisme, par exemple, de Ma Robinson, juste, dans les années 60, on avait tous ces gens-là qui venaient de partout, beaucoup de chanteurs, et je reviens encore à Bob Dylan, on connaît cette chanson, How Many Roads Does a Man Walk Down, donc, on connaît cette chanson-là, c'est Blowing in the Wind, de, comment dit Bob Dylan. Donc, c'est des chansons qui expliquent, qui traduisent un combat où tout le monde participait. Mais c'est encore là, hein. C'est la mentalité, ça ne change pas. Même serait-ce qu'aujourd'hui, dans ce qu'il y a, il y a certaines féministes qui ont mon âge, peut-être plus âgées, qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe aujourd'hui dans le rapport entre genres. Et pourtant, on avait pensé qu'il y avait eu des acquis. Mais non, on se rend compte que non, comme dirait et Aragon, rien n'est jamais acquis à l'homme d'une certaine façon. Donc c'est toujours très très compliqué, très lent, très dur. Et c'est la même chose aussi bien pour les droits sociaux que pour les dominations d'un groupe ou d'une communauté par une autre communauté, quoi.
En tout cas, ici, dans votre roman, Louis-Philippe d'Alembert, cette jeune génération qui mène un combat, qui mène des actions, elle est incarnée ici par Marie-Hélène, en particulier, qui est cette jeune haïtienne très dynamique. Je ne sais pas si elle existe vraiment ou si elle est haïtienne en hommage à vos origines, parce qu'il y a aussi une forte communauté haïtienne dans la région et à Chicago en particulier. Mais en tout cas, elle porte un regard, un souffle neuf sur ces États-Unis. Est-ce que c'est aussi parce qu'elle a grandi en Haïti et qu'elle n'a peut-être pas le même rapport au racisme que les Américains? Qu'est-ce que vous en pensez, Louis-Philippe d'Alembert?
Oui, les deux, j'ai envie de dire, les deux, parce que c'est une fille qui n'a pas 30 ans, qui a vécu la moitié de sa vie en Haïti et l'autre moitié aux États-Unis. En plus, elle arrive aux États-Unis, elle arrive à Chicago, où il y a une très très grosse communauté haïtienne. Et puis, de Chicago, elle obtient une bourse. Chicago se trouve à 1h15 de voiture de Milwaukee, par exemple. Et donc, du coup, elle est montée à Chicago, où elle va rencontrer un jeune homme de Milwaukee, mais qui, lui, est blanc et juif.
Et qui porte des dreads.
Qui porte des dreads, justement. Tout ça, c'est pour dire la complexité de ce pays-là. C'est-à-dire que voilà une jeune fille qui est d'origine haïtienne et puis qui tombe sur un petit-fils de juifs qui ont fui le génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui porte des dreads, qui ne joue que par Bob Marley. Ces gens-là se rencontrent, ils s'aiment et c'est eux qui vont être à l'origine. Vous parliez des réseaux sociaux, tout à l'heure. Il y a Ma Robinson qui est une ancienne gardienne de prison et est devenu pasteur, mais qui de temps en temps oublie qu'elle est pasteur. Il y a le vocabulaire de la gardienne de prison qui remonte à la surface. Donc elle est un peu dépassée par ces réseaux sociaux-là. Et ce sont ces deux jeunes qui vont l'aider à renouveler d'une certaine façon, à rééditer les marches des années 60 pour réclamer justice pour Emmett.
Donc les réseaux sociaux, on l'a dit. Le mouvement Black Lives Matter, né aussi de la contestation ces 10 dernières années. Et en plus, vous imaginez Louis-Philippe d'Alembert, pour enrayer ce cycle de la haine, une longue marche, comme la marche de Selma.
La marche de Selma.
En 1965, menée par Martin Luther King. Donc ce sont autant d'actions qui, se renforçant les unes les autres, peuvent peut-être finir par justement renverser la situation et faire que ça s'arrête à un moment, en tout cas y croire.
Y croire, oui, mais s'arrêter. Encore une fois, je pense être quelqu'un de très optimiste en général dans la vie, mais l'existence humaine est faite de combats aussi. C'est-à-dire que d'acquis, bien entendu, on se bat, on continue, mais en même temps, ça ne s'arrête pas, justement. Il y aura toujours quelque chose contre lequel se battre, heureusement, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Parce que ces luttes-là, ces combats-là viennent entretenir l'espoir. Et les chansons qu'on trouve, justement, sont là aussi pour insuffler cet espoir. Là. Et le rire qu'il y a dans le roman, qui est très présent dans le roman, c'est pour insuffler cet espoir-là. Mais l'existence humaine, il n'y a pas d'existence humaine sans combat. Pour moi, ça n'aurait pas de sens, d'une certaine façon. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faille qu'il y ait du racisme, il faille qu'il y ait, et je ne sais pas quelle autre catastrophe. Mais en même temps, l'être humain, tous tant que nous sommes, on se bat justement pour améliorer le monde qu'on a reçu en héritage et pour le transmettre à d'autres, aux générations et futures. Et c'est ce que Ma Robinson a essayé de faire, c'est ce que la vieille institutrice a essayé de faire. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'elle est un peu déçue, parce qu'elle arrive au bout du chemin. Elle aurait voulu voir tout et changer, mais non, ça ne change pas, et comment dire comme ça. Mais en même temps, ça a donné sens à sa vie. C'est-à-dire, on a reçu un monde en héritage, et d'une certaine façon, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de, sinon de ne pas le détruire entièrement, mais au moins de l'entretenir et de le rendre aux autres, au moins comme, comment dire, nous l'avions reçu. Et c'est ça le combat, c'est ce qui fait sens, à mon avis, à l'existence humaine, en tout cas pour ceux qui ne sont pas croyants.
Et arrêtons-nous encore un instant sur ce personnage clé que vous avez cité à plusieurs reprises, Ma Robinson. Mais elle sort de votre imagination? Parce que franchement, avoir été longtemps gardienne de prison et devenir pasteur, c'est un parcours assez inédit.
Elle sort à moitié de mon imagination, parce que justement, ce personnage existe à Milwaukee. Elle ne s'appelle pas Ma Robinson, effectivement, mais elle vit dans ce quartier-là. Et en même temps, moi, j'ai rajouté, comment dire, tout le reste. Et là aussi, c'est ce que je disais, comment dire, tout à l'heure, c'est le côté tout est possible dans ce pays-là. Bien sûr, comme dans beaucoup de pays, il y a des cases où on essaye d'enfermer, comment dire, les gens. Mais là, on se rend compte que, eh bien, il y a plein de choses possibles. Et ce personnage, cette dame que j'ai connue, j'ai rajouté en tant qu'écrivain, je ne connais pas sa vie. Donc, j'ai inventé l'amitié, par exemple, avec la maman d'Emmett, ou l'amitié avec d'autres personnes, et le fait qu'elle va s'occuper des enfants d'Emmett quand il arrive et qu'il n'a pas de femme pour s'occuper de ses enfants, parce que lui, il travaille, et il fait 3 boulots, et en même temps, sa maman ne peut pas toujours, et puis sa maman va mourir, et ainsi de suite. Donc, il y a ce personnage-là qui m'avait frappé, quand, et là, j'ai rajouté, tout plein de choses, en fait.
Et ce qui me frappe d'ailleurs, c'est qu'elle a un long discours à la fin de votre roman, et je me dis que c'est donc le discours d'une femme, d'une religieuse, qui porte la foule, les foules. Où sont les politiques ? Où sont les législateurs ? Où sont les garants de la justice ? Il n'y en a pas dans votre livre, Louis-Philippe d'Alembert. Est-ce que c'est une absence aussi pour souligner leur incompétence, leur échec, et qu'il faut donc que chacun, chacune se prenne en main ?
Oui, je dirais que chacune se prenne en main. Et puis, je voulais faire un roman aussi au plus près du réel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, à partir du moment où on s'attaque, entre guillemets, où on commence par mettre en scène les politiques, on entre dans quelque chose de beaucoup plus vaste et quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on va être seulement enfermé, j'ai envie de dire, parfois dans des idées. Et là, on a des personnages. J'essaie d'être au plus près de la vie de ces personnages-là, de raconter leur combat au quotidien, comment ils essaient, qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir, les petites combines, ou le système D, et ainsi de suite, parler de ce petit peuple des États-Unis et comme il existe en France ou comme il existe en Haïti ou dans d'autres endroits du monde. Donc c'était ça l'idée. Pour moi, si je devais parler justement des politiques, j'écrirais un essai. Je serais plus dans les idées, je serais plus dans le combat même, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment quelque chose, une histoire ou plusieurs histoires de vie que j'avais envie de raconter.
Moi, je vois quand même dans l'absence de ces élus locaux, hein, il ne s'agit pas de parler non plus de l'homme qui est à la tête des États-Unis, hein, du président, mais les élus locaux, je vois leur absence dans votre roman comme le constat quand même d'une impuissance,
il y en a un seul,
voire d'un abandon.
Il y en a un seul que je fais parler à un moment donné, mais il verse dans la démagogie totalement quand il dit bon, tous ces combats-là, comme on dit, la vie des Noirs compte, la vie et des baleines compte, la vie des grands singes compte, la vie des... ainsi de suite. Donc, il énumère un certain nombre de choses comme ça. Il faut sauver, comme on dit, les fourmis rousses, il faut sauver les fourmis noires, il faut sauver, ainsi de suite, etc. Il a dit, bon, et là, il s'adresse à son électorat, justement, de petites classes moyennes blanches aux États-Unis, il dit oui, mais la vie des petits blancs, eux, elle ne compte pas, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, on tombe complètement dans la démagogie, il y a beaucoup d'ironie dans ce propos-là. C'est le seul moment où je fais intervenir un politique dans l'histoire qui flirte avec, comment dire, l'extrême droite et tout ce qui est démagogie et qui affronte justement cet homme politique qui a du métier, qui affronte une jeune fille et qui, elle, avec toute son ingénuité et toute son envie de se battre aussi pour améliorer la situation aussi bien sociale que celle de la planète, et lui, il sort ce couplet complètement démagogique pour caresser dans le sens du poil ceux et celles qu'ils estiment être son électorat.
Ça veut tout dire. Pour finir, Louis-Philippe d'Alembert, vous imaginez que Marie-Hélène, dont on a parlé tout à l'heure, deviendra une écrivaine égale à ses aînés Edwige d'Anticat et Toni Morrison. Ça veut dire que aussi la littérature participe à la fin de cette guerre, j'ai envie de dire.
Ah oui, pour moi oui, d'autant plus que ce sont deux écrivaines dont j'aime beaucoup, et comment dire, l'œuvre en fait, Toni Morrison ou Edwige d'Anticat, qui est, comment dire, une compatriote. Et pour elle, c'est quelqu'un, par exemple. Ce sont deux femmes, deux écrivaines qui ont représenté quelque chose dans ce pays, aux États-Unis, et Edwidge encore aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'identifient à elle, à Toni Morrison ou à Edwidge Anticat. Donc oui, son rêve c'est ça, parce qu'elle fait des études de lettres, elle rêve peut-être qu'un jour elle deviendra une écrivaine connue qui participera aussi à la lutte de la cité, comme les autres ont pu le faire.
Et comme le fait aussi votre roman. Merci beaucoup Louis-Philippe d'Alembert.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de cette nouvelle publication, Milwaukee Blues, paru aux éditions Sabine Vespieser, qui est en lice pour plusieurs prix littéraires, dont le Goncourt, on vous le souhaite. Et merci beaucoup aussi à Jérémy Boucher, qui a enregistré cette émission aujourd'hui.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.